Je réfute totalement ce qui
se
Bonjour à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Le projet sur l'adoption internationale des enfants congolais est en discussion au Parlement. Selon le gouvernement, ce projet de loi consacre le principe de subsidiarité en vertu duquel l'adoption internationale d'un enfant congolais ne pourra être autorisée qu'en cas de carence de toute autre solution sur le plan national, tant au niveau du cadre familial que public, d'une prise en charge adéquate de la survie du candidat à l'adoption. Entre-temps, en marge de la célébration de la journée des enfants africains, l'Eurodécic a indiqué au cours d'un point de presse que plusieurs enfants sont souvent victimes de trafic et transferts. Il cite en dehors de la RDC. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour une intervention en direct. Le débat s'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. La mise en œuvre de ce magazine est assurée par Jean-Noël Mokondo, Julie Fezabongonda est au standard, Germain Gembo est à la réalisation et coordination, et Piro et la Méji vous les présentent sous la supervision de Martin Sebouzango et fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Méji.
Cette émission marque la suite de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Hier, on a abordé d'une manière globale la situation de l'enfant congolais et aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à la situation de l'enfant victime de trafic et aussi de transferts illicites dans le domaine de l'adoption. Et c'est le sujet qui a été au centre d'un point de presse animé hier par les Rhodésiques ici à Kinshasa, en marge de cette Journée de l'enfant africain. Et dans ce studio, nous recevons Fleury Dala, qui est chargé du plaidoyer au Rhodésic Fleury. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et merci de m'avoir invité à cette émission Parole aux auditeurs. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Odinienne, la radio de la paix, Radio Okapi.
Et hier, quels ont été les points clés à aborder au cours de ce point de presse consacré à la journée de l'enfant africain?
La célébration de cette journée pour les Rhodésiques a été utilisée pour faire les plaidoyers. Et notre message principal était un appel aux autorités compétentes, aussi bien de la communauté nationale et que de la communauté internationale, sur les mesures à prendre, toutes les dispositions à prendre pour éradiquer ces phénomènes honteux de notre siècle, de notre temps, celui du trafic des êtres humains, du trafic illicite des enfants. Nous avons insisté sur les enfants, comme c'était la journée internationale de commémoration de l'enfant africain.
On sait qu'il y a eu beaucoup de mesures, il y a eu même un moratoire qui a pu mobiliser la communauté internationale autour de l'adoption des enfants congolais, parce que le gouvernement estimait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes de trafic, de transferts illicites à l'extérieur. Est-ce qu'au niveau des Rhodésiques, vous avez quand même eu des cas concrets des enfants qui se sont retrouvés dans victimes de ces trafics?
Évidemment, c'est d'ailleurs un des cas qui nous a permis de pouvoir organiser cette journée en marge de la célébration de la journée de l'enfant africain. Il s'agit d'un cas de la disparition de trois filles mineures venues de Guémena. C'était un groupe de quatre enfants venus pour des vacances, invités par une dame qui s'est présentée comme une bienfaitrice, voulant sceller un partenariat avec une ASBL, une ONG du côté de Guémena. Et les quatre enfants sont venus avec un accompagnateur, un activiste de l'ONG. C'est l'ONG Planète Junior, les Amis de la Paix. Et l'accompagnateur, c'est le chargé de protection de l'enfant, donc au sein de l'ASBL. Les enfants sont venus, les parents leur ont accordé cette permission. Ils ont confié à l'ASBL le soin de conduire leurs enfants à Kinshasa. Et selon les accords entre la dame qui est propriétaire d'un orphelinat à Kinshasa, l'orphelinat s'appelle Toumaïdi, puisque c'est légal, c'est connu des officiels du pays. Les enfants sont venus, et pour passer de vacances pendant un mois, donc selon l'accord entre les deux institutions. Un mois plus tard, le chargé de protection de l'enfant se présentait de nouveau à la dame. Les quatre enfants habitaient bien évidemment à l'orphelinat, tandis que lui, il était non loin de là, donc juste à côté. Et le voyage, tout cela était pris en charge par l'orphelinat ou par la dame. Bon, il va de nouveau trouver la dame, il dit c'est déjà un mois, nous devons retourner à Guémena parce que selon les accords, les vacances, elle veut prendre juste un mois. La dame s'excuse, écoutez, nous avons des difficultés financières pour l'instant, je ne peux pas vous permettre de retourner à Guémena, accordez-moi encore un temps. Mais durant ces temps accordés, le chargé de protection de l'enfant se rendra compte qu'il a été piégé, qu'il est tombé dans un guet-apens et trois enfants portés disparus. Les enfants ont quitté Kinshasa. Par quel moyen, de quelle manière, on ne les sait pas. Tout ce qu'on sait, ils sont sortis de l'aéroport de N'Djili. D'après les enquêtes menées, on a compris que les enfants se retrouvent en Belgique, puisque la dame a avoué que les enfants s'est retrouvés en Belgique, mais elle a dit que c'était par erreur et qu'elle prendrait des dispositions pour les rapatriements. Le chargé de protection de l'enfant a beaucoup souffert avant d'arriver même à connaître la vérité. Heureusement, j'ai dit merci à la MONUSCO et à la radio Okapi, qui avait invité Rodesic il y a quelques mois.
Nous étions avec Madame
Florence.
Florence, effectivement, autour de ces questions, on en a abordé, oui.
Exact. Et Monsieur Paul Kabeya,
oui.
Le secrétaire exécutif de Rodesic,
oui.
Madame Florence est de Justice et Équité, et nous sommes tous dans un réseau luttant contre le trafic des enfants. Alors, grâce à parole aux auditeurs, le chargé de protection de l'enfant de l'ASBL Planète Junior avait saisi le Rodesic, et nous étions mis dans l'affaire jusqu'à connaître la vérité. Donc, nous sommes en train de mener les combats pour non seulement les rapatriements de ces trois enfants, puisque l'unique garçon qui est resté, peut-être parce que c'est un garçon, et on doit le souligner, la disparition, beaucoup de filles, c'est surtout les filles, les petites filles qui sont victimes de ce genre d'enlèvement, de ce genre de kidnapping. Alors les garçons ont peut-être échappé parce qu'il est garçon. Et il est avec moi à Kinshasa, les chargés de protection. Et ici, ils ne savent pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient venus en groupe et doivent retourner en groupe.
Mais par rapport à cette dame, parce que l'orphelinat est connu, c'est qu'il y a eu aussi des cas où les enfants sont retrouvés aux États-Unis d'Amérique à travers les orphelinats à Kinshasa. Mais au niveau du pouvoir public, qu'est-ce qui a été fait pour qu'effectivement cette dame, c'est pas un orphelinat, si on peut dire, c'est sous couvert de l'orphelinat qu'on organise ces trafics. Alors, quelle a été la réaction de l'autorité publique à ce niveau?
Nous avons eu des réactions positives de l'autorité publique. Il faut dire que le ministère de la Justice, qui nous a écoutés, a instruit le PGR de se mettre sur les dossiers. Et nous avons confié, grâce à notre service juridique, ces dossiers au PGR, qui est en train de suivre son cours. Nous avons été au niveau du ministère de l'Intérieur, et nous devons dire que aussi, le fait pour nous d'apporter un tel cas, d'autres cas que nous avons, ont aussi apporté l'eau au moulin du ministère de Justice, que le gouvernement puisse déposer son projet de loi sur l'adoption des
effectivement, oui, le projet est en examen, je crois, au Parlement, il était au Sénat, ça a été retenu par l'Assemblée nationale. C'est effectivement dans le cadre de ce projet de loi où le gouvernement consacre les principes de subsidiarité en estimant qu'on ne peut pas aujourd'hui adopter un enfant congolais de n'importe quelle manière. Il faut qu'on se rende compte, effectivement, qu'il n'y a plus peut-être d'espoir, il n'y a plus un enfant qui n'a plus d'espoir, qu'il n'y a pas une autre alternative pour sa prise en charge, que ce soit au niveau d'une famille ou bien de la communauté, de la société, que l'enfant peut être adopté. Mais pensez-vous, dans les conditions de précarité et de pauvreté extrême, qu'on évolue quand même, dans beaucoup de familles évoluent, est-ce que cette mesure peut être assez efficace pour protéger les enfants contre ces trafics?
Tout dépend de son application et de ceux qui sont chargés de la faire appliquer. Là, c'est la loi, vous savez, elle peut rester lettre morte comme elle peut être stricte d'application.
Mm-hmm.
Je sais que c'est tel que formulé, c'est déjà inavancé, mais je serai prudent pour dire significative, parce que elle peut ouvrir des brèches, et nous le savons, ce sont des réseaux bien forts, bien bâtis, et qui pour l'instant continue encore à enlever des enfants, à kidnapper les enfants. Donc ça ne sera pas parce qu'il y a un article de loi que ces réseaux vont cesser leur activité, que j'appellerai criminelle, bien évidemment. Donc les autorités qui vont, quand la loi sera promulguée, signée par les chefs de l'État, il faudrait que les gens se mettent autour d'une table et se dire, nous avons la loi et maintenant nous devons l'appliquer. C'est déjà bien que ce soit dit qu'il faut avoir épuisé tous les moyens possibles avant de passer à l'adoption. Justement parce que les cas que nous avons en main, c'est un cas où tous les moyens n'étaient pas épuisés. Les enfants ont été amenés à l'orphelinat alors qu'ils ne sont pas orphelins. Et les orphelinats ne constituent que des couvertures. Là aussi, il faudrait que le ministère des Affaires sociales, que d'ailleurs nous saluons, parce que hier, le ministère nous a accompagné Joséphine, qui est la conseillère de son excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, était présente dans la salle. Nous avons échangé. On doit agir sur la permission. Comment est-ce que les orphelinats fonctionnent? Qui donne la permission? Est-ce que les conditions sont remplies? Les critères sont remplis? Et le contrôle doit être permanent. Est-ce que le garçon que nous avons retiré de l'orphelinat Toumaïni, il a été frustré, on ne l'a pas retrouvé dans un bon état psychologique, et même au point de vue de sa santé physique, les garçons étaient malades, ils avaient des gales, donc ça signifie qu'il était mal nourri, et c'était un endroit mal fondé.
C'est dangereux. Voilà, dommage. Et pourtant, l'ONG Planète Junior, je crois bien à Guémena, c'est une structure qui travaille beaucoup, parce que parmi les animateurs, bravo, les Mungu avec qui nous avons travaillé dans Parole aux auditeurs, qui est un grand intervenant des Paroles aux auditeurs, plusieurs fois on a accompagné les activités de sensibilisation de cette ONG et pour tomber dans un tel guet-apens. Je crois bien que c'est une grande préoccupation. 081-890-6315 pour intervenir en direct. Félicitations, vous êtes à Kinshasa. Julie Moula, à Kisangani, Kevin, en Bandaka, nous allons vous accorder la parole.
Vous voulez dire une fois à ceux qui vous sont chers, l'espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa. À tout à fait récent et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radio-okapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour. Félicien, vous êtes avec nous. On vous écoute. Vous avez quand même suivi l'exemple avec lequel nous avons démarré cette émission donnée par notre invité tout à l'heure. C'est quand même assez poignant et troublant qu'un tel événement se déroule d'une manière si facile de pouvoir s'utiliser un orphelinat et organiser les trafics des enfants pendant cette période. Alors, comment on peut arriver d'une manière plus efficace dans la célébration de cette journée à faire face à ces genres de situations dans notre pays, Félicien?
Oui, puis moi je pense que la loi de fait, quoi, elle est faite, je ne sais pas si c'est une innovation, mais je crois que c'est une bonne loi. Mais la difficulté, c'est l'application de cette loi, comment cela pourrait se faire. La loi dit qu'on pourra accorder l'adoption en cas de carence de toute autre solution ou une autre alternative pour la prise en charge de l'enfant. Or, quand nous regardons ici chez nous, il n'y a aucune alternative, il n'y a aucune autre solution. Déjà, le grand nombre vit dans la précarité, le chômage des parents, et les conditions de vie de la majorité de la population, fait que les grands nombres des enfants congolais vivent dans une situation qui fait qu'on doit chercher des solutions ailleurs. Alors, quelle est cette alternative ou bien cette autre solution qui viendra aider l'enfant congolais à ne pas être adopté, à ne pas se faire esclave comme ils le sont aujourd'hui? C'est pas là le problème. Mais les internats, comme vous dites, les orphelinats, y a-t-il encore des orphelinats comme à l'époque des missionnaires catholiques et quand nous étions encore sous la colonisation dans ce pays? Moi, je pense pas que ce sont des orphelinats. C'est toujours des endroits où on est en train de faire quelque chose, mais qui ne peut pas donner vraiment du résultat escompté. Moi, je pense que le problème de notre pays, c'est le problème de la bonne gouvernance, le problème de donner des conditions de vie à toute la population. Et parce que moi, je ne crois pas que je suis capable d'aller aujourd'hui en Belgique ou en France et adopter un enfant et l'amener ici au Congo. Parce que ces enfants-là, ils ont une assurance qu'il est des parents, qu'il n'est pas des parents. Même des enfants, des Africains qui partent là-bas, dès qu'ils ont le petit papier de là, les enfants sont pris en charge par le gouvernement belge, le gouvernement français, tout l'Occident en fait. Et pourquoi alors chez nous, les dirigeants ne peuvent pas vraiment suivre cet exemple? Nous copions tout, même la constitution, nous la copions de l'extérieur, des Occidentaux. Mais des bonnes choses, nous ne les prenons pas. Nous dilapidons toutes les ressources pour l'intérêt personnel. Des individus sont plus riches et la majorité de la population dans la pauvreté est indescriptible. Et vous pensez que cette loi-là pourra venir changer quelque chose? Moi, je pense que nous devons prendre les choses au sérieux et penser à l'intérêt général et non pas continuer à vivre comme nous vivons. Nos enfants seront toujours esclaves, ils seront vendus, on va faire de ce qu'ils voudront tant qu'il y aura la paix, qualité de la vie dans notre pays.
Alors, mais il y a aussi, ça c'est un cas, Félicien, mais vous avez suivi l'exemple donné tout à l'heure par notre invité. Ces enfants ont été pris des Guinéens dans une collaboration entre des ONG, estimant qu'ils vont passer les vacances à Kinshasa. Mais là aussi, il y a un problème sérieux des déficits, des contrôles de ce qui se passe dans les orphelinats. Parce que plusieurs cas que nous avons évoqués dans cette émission, des enfants qui ont été victimes de trafic, ces enfants sont passés par des orphelinats qui fonctionnent dans la capitale à Kinshasa. Et on a dénoncé plusieurs cas. Mais qui, bon, malheureusement, ces orphelinats sont toujours en train d'exister. Et là, c'est un problème très sérieux au-delà de toutes les mesures qu'on peut prendre au niveau juridique par rapport à l'adoption, mais qui passe par ces fameux orphelinats pélicains.
Oui, j'ai dit, Pierrot, que vous ne trouverez jamais des orphelins dans ce pays comme ce qui existait à l'époque de la colonisation belge avec les missionnaires et catholiques ou protestants et tout ce qui est les ONG font ici. Et ce sont en quelque sorte des boutiques de vente d'enfants et tout ça où des voies de moyens pour chercher à avoir des dons de la part des Occidentaux. Mais ce n'est pas vraiment pour l'encadrement des enfants. Moi, je ne crois pas à ça. Et quelles sont ces conditions, dans quelles conditions ces enfants sont gardés, dans quel genre d'internat. Et le résultat est là. Et ça, c'est un cas qui est arrivé à votre niveau. Mais il y en a beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas. Donc moi, je pense que ce n'est pas le problème des hommes dans ce pays. C'est le problème de l'État congolais. C'est le problème du gouvernement qui doit s'occuper de toute la population. Parce que c'est ça, la gestion de la République. C'est ça, la gestion de la cité. Et on ne peut pas être là en train de s'amuser comme ça, alors que tout ce que nous avons comme richesse doit être réparti équitablement à toutes les couches de la population.
Merci, Félicien, pour toutes ces précisions, la responsabilité de l'État. D'ailleurs, c'est ce que nous dit aussi Jolie Mboula, qui nous a écrit des Kisangani, qui est avec nous sur la page Facebook, mais lui aussi, en direct dans cette émission, lui aussi, et il estime qu'il y a d'abord un problème de fuite des capitaux. Pourquoi ne pas mettre les Congolais dans des conditions normales pour pouvoir encadrer les enfants plutôt que favoriser le départ dès lors que ces enfants ne vont plus garder la nationalité congolaise. Et Jolie Mboula, merci de nous avoir contactés. Vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour la radio Capi.
Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est les commentaires que vous avez fait sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On vous écoute.
Ok, merci. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux la finalité de cette loi sur l'adoption des enfants. Si je me réfère bien à la Constitution, à son article 10 sur la nationalité, il y a un principe cadenant de la nationalité, c'est-à-dire la nationalité congolaise est inexistante. Du moment où on ouvre une porte à l'adoption des enfants, premièrement, d'abord, ces enfants vont perdre la nationalité congolaise. En vertu de l'article 26 de la présente loi sur la nationalité, une fois acquérir une nationalité étrangère, vous perdez la nationalité congolaise. C'est premièrement un problème. Le deuxième problème qui se soulève, mais finalement, ces enfants vont être bénéfique et pour les États qui vont adopter ces enfants. Alors, on se pose même une question. Pourquoi laisser l'Afrique des capitaux? Tous ces enfants, on devrait les encadrer. Ce sont des intelligences à pouvoir capitaliser, les exploiter rationnellement. Il y a des orphelinats. Ces enfants, les encadrer dans le métier, aussi direct. Et ces enfants devraient produire pour la République démocratique du Congo. Alors, j'allais aussi me poser une question. On ne sait même pas la finalité de cette loi. Celui qui va adopter cet enfant, est-ce... Au niveau de notre pays, nous ne savons même pas contrôler ces enfants. Là où maintenant l'enfant congolais ira, comment on sera en mesure de contrôler la totalité de cette adoption? Peut-être que cet enfant peut être adopté pour, je ne sais pas, des travaux corvées, si c'est inutile, peut-être pour l'exploitation sexuelle, dirais-je. Ce sont des questions qui se posent un peu par rapport à cette loi. Donc, on comprend que la République du Congo est dans une sorte de. Une défaillance de sa responsabilité, soit se déférer pour couper l'enfant congolais de son lien naturel à cause, je ne sais pas moi, de la nourriture, de scolarité. Le ministère des Affaires sociales et des gens et des familles, là, pourquoi ne pas encadrer tous ces enfants qui soient bénéfiques parce que ce sont des intelligences très importantes.
Bon, oui, à travers l'adoption, votre inquiétude est fondée. D'abord, vous posez les premiers problèmes, c'est de savoir pourquoi ne pas être en mesure de s'organiser soi-même pour encadrer ses propres enfants plutôt que de les laisser partir. Ils vont perdre la nationalité congolaise. Mais il y a aussi cette question de fuite des capitaux. Vous estimez qu'à travers tous ces enfants, certains enfants qui sont adoptés, c'est autant d'intelligence qui peuvent être utiles à la nation, mais aussi l'inquiétude par rapport aux mesures d'encadrement. Quand nous avions reçu Albert Paca, je crois, le conseiller, le directeur de cabinet adjoint à la vice-primature ministère de l'Intérieur, nous avait dit qu'il n'y avait pas une structure qui existait pour poursuivre et savoir qu'est-ce que les enfants deviennent dans le pays. Mais avec la loi, on pense comment collaborer avec les pays d'adoption pour savoir, pour s'assurer que les enfants qui sont adoptés ne sont pas victimes de l'exploitation dans les pays d'adoption. Mais votre inquiétude, elle est vraiment fondée. C'est la même inquiétude aussi posée, présentée par Kevin Ikoka, qui est en Bandaka, Kevin, mais aussi qui est avec nous en direct en ce moment, qui estime que les députés qui discutent la loi, ils pouvaient plus consacrer les efforts à ce qu'on puisse avoir un budget important, un budget qui permette à ce que les familles et les centres d'encadrement des enfants soient mieux organisés pour encadrer les enfants plutôt que laisser ces enfants partir ailleurs. Kevin, merci d'être avec nous aussi en direct. Bonjour, on vous écoute, Kevin.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs. Je crois que mes prédécesseurs ont essayé de faire quelque chose s'agissant de la thématique d'aujourd'hui. Je félicite également l'intervenant, en fait mon prédécesseur d'avant, c'est lui qui vient de terminer, qui a essayé un peu de brosser mon intervention en quelques peu de mots. Moi je pense que la meilleure restriction pour l'adoption des enfants doit passer par l'amélioration de la situation des vies de leurs parents. À l'heure actuelle, les parents des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Et cela ne va pas permettre à ce qu'on puisse gérer, qu'on puisse chercher à épanouir l'enfant congolais. Parce que si vous voyez le principe de subsidiarité prévu par cette loi, ce projet de loi, ça ne constitue pas une assurance pour l'enfant congolais. Ça, toutes les conditions pour que l'enfant congolais, en fait, toutes les conditions pourraient être réunies pour qu'on puisse adopter l'enfant congolais, étant donné que, à l'heure actuelle, on parle par exemple des cas dans la loi, on parle des cas de carence. Mais à l'heure actuelle, on va trouver tous les cas de carence en RDC. Il y a par exemple les cas de l'existence d'un cadre familial. Aujourd'hui, est-ce que l'enfant congolais vit dans un cadre familial vraiment adéquat? Il y a vraiment absence totale d'un cadre familial adéquat, ce qui se voit directement lorsqu'on est RDC. En fait, quand on parle des cadres familiales en RDC, on dira par exemple que la quasi-totalité d'enfants congolais seront tous adoptés. Parce qu'il n'existe pas vraiment un cadre familial adéquat où l'enfant doit développer normalement. On parle par exemple des orphelinats et des ONG chargés de la protection de l'enfant et ainsi de suite. Le prédécesseur a dit, ça constitue généralement pour aujourd'hui le marché pour la vente des enfants, ce qui n'est pas bien. En fait, l'enfant ne vit pas dans un cadre familial adéquat. C'est parce que l'enfant dépend totalement de ses parents, alors que ses parents vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Ce qui n'est pas bien. C'est ainsi qu'on pense que tous les enfants chez donc sont éligibles à être adoptés. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut d'abord commencer par l'amélioration des conditions de vie des parents pour penser à poser un certain nombre de restrictions pour l'adoption de l'enfant.
Merci beaucoup, Kevin. C'est important ce que vous avez dit. Hein. Le principe juridique lui-même ne peut pas aujourd'hui protéger cet enfant contre l'adoption, si on peut dire illicite, et surtout contre les trafics, parce que déjà la précarité dans laquelle beaucoup de nos familles vivent expose déjà ces enfants à la souffrance. Les parents eux-mêmes ne seront pas capables, et aussi longtemps qu'on aura ces conditions de vie, ça sera difficile de mettre fin à cette situation. Merci en tout cas de nous avoir contacté de Tumbandaka dans la province de l'Équateur. Clément, non, c'est d'abord Maître Trésor qui est ici à Kinshasa. Bonjour Maître.
Bonjour.
Et si, en écoutant les auditeurs, on pense que le cadre juridique lui-même ne peut pas suffire hein, pour aider à mettre fin à cette situation de ces enfants qui se retrouvent dans le trafic. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens recourent à l'adoption à travers les orphelinats, les ONG, des fois. Et tout ce qui est arrivé, on a fait beaucoup de débats autour de ça. Mais aujourd'hui, cette dimension se levait dans les projets des lois pour dire qu'on ne peut adopter que quand on se rend compte qu'il n'y a plus d'autres alternatives. Mais beaucoup de compatriotes estiment qu'aussi longtemps qu'on aura toujours la pauvreté, la précarité, on aura toujours ces cas, ces tentatives d'adoption, mais aussi à les faire d'une manière illégale, vu les difficultés dans lesquelles beaucoup de familles se trouvent aujourd'hui. Quel est votre point de vue, Maître Trésor?
Bien, le cadre juridique est fait des écrits sur papier. Il ne s'agit pas de personnes physiques, ce sont des écrits qui doivent être appliqués par les personnes physiques attitrées, bien sûr. Mais je pense que ce principe de solidarité appellera à des études très approfondies. Et je voudrais ici apaiser les uns les autres pour dire que l'adoption ne se fait pas sur demande de l'enfant à adopter. Ce sont les parents qui doivent adopter, à qui revient l'obligation, le devoir de faire la demande. La demande doit être faite par les parents adoptants plutôt. Mais par rapport à ce que l'invité a dit, je le soutiens, quand il a émis les réserves de dire qu'il s'agit là d'une avancée significative. Oui, c'est une avancée, mais elle n'est pas encore significative. Elle deviendra ou non significative dans la pratique. Ici, l'adoption a un caractère gratuit. Cela veut dire que pour faciliter la tâche, on doit enlever en esprit l'idée que les parents qui viennent pour adopter sont obligés de verser un peu d'argent en faveur des parents de l'enfant adopté. Ça, c'est à bannir dans les esprits des Congolais. Mais également, l'adoption est charitable. Cela veut dire que ce principe de solidarité veut simplement soutenir le fait que la charité, le caractère charitable doit demeurer et que ce principe, aussi compris comme un principe d'aide, doit être appliqué pour essayer de suppléer à l'impossibilité, à la difficulté de certains parents congolais. Mais aussi, cette situation, pour que ce principe soit vraiment bien appliqué, on doit mener des enquêtes préalables hein, avant d'accepter l'adoption. Pour savoir si et seulement si les informations hein, présentées sur la situation de tel ou tel enfant sont vraies ou fausses. Sinon, comme le prédécesseur a dit, on risquerait d'adopter des enfants parce que la situation des enfants congolais est connue de tous. Tous ou presque les enfants congolais sont dans une situation de difficulté. Oui. Alors, ce principe-là, si il est mal compris, nous risquerons de connaître encore plus de problèmes que nous avons déjà compris par le passé. C'est pourquoi, je reviens sur ma proposition d'autrefois, il faut que les députés, les parlementaires puissent vraiment prêter attention à cela. Mm-hmm. Mettre en place une structure spécialisée pour veiller à ce que ces principes soient bien appliqués et que les enquêtes soient menées sérieusement pour savoir que l'enfant qu'on veut adopter est réellement dans une situation mm-hmm. qui lui donne le droit d'être adopté. Mm-hmm. Et non seulement parce qu'il y a le souci de faire adopter un enfant parce qu'on a des contacts avec les parents qui viennent, par exemple, de la France, de la Belgique. Ça, vraiment, il faudrait qu'il y ait ces services-là appropriés. Et un service qui aura un personnel aussi bien formé, bien outillé, rien que pour ce travail-là. Je crois qu'en ce moment-là, nous serons en même de voir si c'est une avancée significative ou non. En tout cas, pour ce point-là, moi, je félicite l'invité. On doit mettre des réserves, puisqu'on a beaucoup de lois, mais pour cette fois-ci, on doit veiller à ce que ces principes soient bien appliqués et qu'ils soient appliqués correctement.
Merci.
Nous attendons et c'est ce que nous voulons.
Merci beaucoup, Maître Trésor. D'ailleurs, c'était votre vœu lors du passage dans la dernière émission consacrée à cette situation, que ce soit quand nous avons abordé cela avec les rodéfiques et justice équité, quand nous avons abordé cela avec Albert Pacalet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Vous êtes revenu sur cette proposition d'une structure qui doit vraiment gérer les cas d'adoption. Cela veut dire faire un travail en amont et en aval pour se rendre compte vraiment que les enfants congolais sont protégés en cas d'adoption et surtout, et c'est cette structure qui peut aussi faire le monitoring et l'alerte pour savoir qu'il y a des enfants qui sont en danger aujourd'hui à travers les aînés des orphelinats. Clément, vous êtes en Bougival et vous gardez la ligne Josephine à Boston. On va revenir à vous. 081 890 6315 pour intervenir en direct dans cette émission.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des hommes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un verre de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte et total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Docteur Idala, vous êtes chargé des plaidoyers au RODESIC. Vous avez suivi quand même les compatriotes. Les débats ont beaucoup évolué. Quand je regarde, je me rappelle encore de ce que nous avions dit dans les dernières émissions, mais aujourd'hui, les liens entre la responsabilité de l'État dans l'amélioration des conditions de vie de la population et l'adoption, et d'un côté aussi les trafics d'enfants, quand même, c'est important. Hein, et puis, il y a un mot que vous pouvez placer par rapport à ce que les compatriotes venaient de dire.
Okay. Je trouve que à travers cette loi, le gouvernement est en train de s'interpeller lui-même. C'est dans d'autres domaines, je dirais, le gouvernement se tire une balle dans les pieds. C'est-à-dire qu'il doit prendre des responsabilités qu'il faut pour assurer, améliorer les conditions de vie de famille. On sait que la précarité est là et que beaucoup de gens, surtout les mécréants, utilisent justement cette précarité pour pouvoir kidnapper les enfants et les vendre. Donc c'est ce qui favorise le trafic des enfants. Alors la loi, elle s'avance vers ses caractères dissuasifs contre les gens qui pratiquent ce genre d'esclavage du temps moderne. En même temps, la loi est contraignante pour le gouvernement.
Effectivement. Oui. Le fait de dire que, en cas de carence, il n'y a pas d'autre solution, c'est que l'État prend la responsabilité de s'occuper effectivement de ces conditions pour qu'au cas où on n'a rien à faire, qu'on passe à l'adoption.
Exact. Et comme on l'a dit, dans d'autres manifestations, la place de l'enfant, ce n'est pas au petit marché, ce n'est pas aller chercher du bois dans la forêt, ce n'est pas traîner dans la rue. La place de l'enfant, c'est à l'école. Et là, le gouvernement s'est dit, je dois bien appliquer le principe de la gratuité de l'enseignement, ce qui est dans la Constitution. Et le gouvernement le fait déjà, mais on sait qu'on doit fournir beaucoup plus d'efforts afin d'attirer beaucoup plus d'enfants à l'école. Et quand ils sont à l'école, on leur apprend ce qu'il faut, et peut-être quand ils rencontrent des inconnus dans la rue, ils pourront mieux se protéger et mieux se conduire par rapport à cela. Donc il y a beaucoup d'autres conditions que l'État devrait améliorer. Je suis tout à fait d'accord avec tous les intervenants. Est-ce que le danger, comme l'a dit, ça demeure cette précarité. Et ça peut être un danger pour l'application de la loi, ça peut être encore un danger pour que le phénomène des trafics des enfants continue. Mm-hmm. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait lutter contre la pauvreté. Je suis d'ailleurs content que le gouvernement est en train de réfléchir sur le plan national stratégique de développement, je crois jusqu'en 2026 ou 2030. Dans ce cadre-là, je crois qu'il y a une place réservée à l'amélioration des conditions des familles et des enfants.
Mais quand on regarde aujourd'hui ces cas, vous l'avez évoqué, le fonctionnement des orphelinats et les enfants qui sont dans ces orphelinats, est-ce que vous, qui êtes dans le monitoring des plaidoyers avec vos décisions, ou quoi bien vous le faites, est-ce que vous rendez compte au niveau du ministère des Affaires Sociales, du ministère de l'Intérieur peut-être aussi, qu'il y a un travail de contrôle régulier qui s'est fait au niveau des orphelinats pour savoir si réellement ces enfants qui sont là et sont pris en charge correctement, et si surtout ce sont des orphelins avec des registres bien tenus, cet enfant a été trouvé dans quelle famille, où on peut les identifier. Enfin, quand même, c'est écœurant qu'un enfant qui est venu de chez ses parents en bonne santé de Guinée-Nord se retrouve avec une santé précaire dans un orphelinat, et ça, c'est encore plus inquiétant.
Il y a une carence sur ce point-là, parce que l'orphelinat Toumaïli, où nous nous sommes rendus, même les voisins tout autour ne savaient pas qu'il existait un orphelinat. Et donc, il n'y a pas d'inscription à l'extérieur. Et je crois que ça doit être dans la loi. Il faudrait qu'on ait une inscription que c'est un orphelinat. Et les voisins doivent savoir qui vit là-bas. Je reconnais qu'il y a certains dans les différents départements du ministère ou du ministère des Affaires Sociales qui font exactement, correctement leur travail. Mm-hmm. Et nous avons eu de preuves, je ne vais pas le citer, tandis que d'autres continuer encore à ralentir les pas et ne pas faire correctement le travail. Et c'est ce contrôle, puisqu'il n'est pas permanent, puisqu'il est inexistant, qui favorise tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui.
Et Clément, vous êtes en Bougival, au Kassai Oriental. Bonjour Clément et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup. Bonjour Pierrot. Bonjour à la Radio Kabi.
On vous écoute Clément.
Nous sommes d'avis avec les autres intervenants. Mais nous voulons apporter une petite pierre par rapport à l'édifice qui veut être construit bientôt. Mmh. Mais ce qui est important à relever est que la grande responsabilité et la majeure responsabilité incombe beaucoup plus à l'État et à ses organes. Parce que l'adoption ne se fait pas par les tiers eux-mêmes, l'adoption se fait par les organes établis par l'État.
Mmh.
Donc vous vous rendrez compte que et même les organismes que nous avons, ONG ou autres que nous avons aujourd'hui, dans la plupart des cas, ils profitent de la faiblesse de la population, de l'ignorance de la population et de l'ignorance des organes établis par l'État pour faire du n'importe quoi. Et vous verrez, ils profitent aussi de cette pauvreté de la population pour faire de n'importe quoi. Parce que quand vous prenez la loi portant protection de l'enfant à son article 6, comme nous l'avions dit hier, donc l'intérêt supérieur de l'enfant doit être de mise. Donc, quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous voyons beaucoup plus le souci de sauvegarder ses droits, les droits de l'enfant. Et quand on veut entrer dans la profondeur de ses droits, nous voyons les besoins moraux, affectif, donc physique, son âge, ainsi de suite. Vous trouvez d'abord une famille qui est incapable, le père, mère, incapable parce que l'État ne les met pas dans les conditions de prendre en charge ses enfants. Donc un parent qui était bien encadré par lui, qui se retrouve un peu à l'air, il ne parvient pas à supporter correctement ses enfants. Et qu'il y a une ONG aujourd'hui qui est née dans le seul but de profiter de cette ignorance, de cette insuffisance de parents, pour suggérer aux parents, non, prenez vos enfants, vous les mettez ici, ils seront bien encadrés, ainsi de suite. Donc ces gens, ils sont là. L'État les connaît, ils sont là, ils vivent, ils existent. On prend les enfants, on les met à leur disposition, et quelques temps après, vous savez que l'ONG n'existe plus, et même tous les enfants qui y étaient sont portés disparus. Donc, cette insuffisance revient à qui? Donc, les enfants voyagent. Mm-hmm. Il y a les services de déchets qui sont là. Il y a les services de migration qui sont là. Donc, tous ces services sont là sous l'œil impuissant de l'État. Quand on parle de l'État, on regarde tous ces organes. Donc, si les parlementaires veulent faire cette loi d'adoption internationale des enfants, donc ces enfants ne voyagent pas dans les aéroports placés sous les cieux, mais ce sont toujours nos aéroports. Ce sont toujours nos gares, aérogares et arrêts bus où les enfants voyagent. Donc, l'État doit mettre les gardes fous correctement et convenablement pour protéger ses enfants. Si aujourd'hui, les grandes personnes veulent quitter la RDC pour aller se réfugier ailleurs, pour chercher la meilleure vie ailleurs. Que dire des enfants? Donc, il y a des sollicitations qui viennent de l'extérieur pour dire non, tes enfants seront bien encadrés à l'extérieur, ils seront bien nourris, ils vont bien étudier, alors qu'ici, ils ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas bien nourris. Donc, facilement, la pauvre population et les pauvres parents peuvent libérer les enfants facilement sous l'œil impuissant de l'État.
Merci beaucoup, Clément. Et la responsabilité, comme vous l'avez dit, des services de l'État dans cette question, elle est vraiment importante parce que, vous l'avez dit, et s'il y a une adoption aujourd'hui, quand on a estimé la fois passée qu'il y avait des adoptions qui s'étaient déroulées d'une manière pas très légale, il fallait les suspendre, ils sont passés par des jugements, prononcés par des juges. Ça, c'est la responsabilité de la justice. Quand il y a, par exemple, cette faiblesse dans le prononcé des jugements, toutes ces questions, les documents pour sortir du territoire, vous l'avez dit, un enfant ne peut pas quitter le territoire congolais sans passer par une frontière, et à chaque frontière, nous avons les services de l'État, et à la police des frontières, nous avons les services de migration. Alors comment les enfants peuvent partir de Kinshasa et se retrouver en Belgique? C'est qu'ils sont quand même passés quelque part où se trouvaient les services de l'État. C'est que la responsabilité, elle est vraiment transversale. Je crois que ça, c'est important. Merci beaucoup, Clément, pour cette précision. Joséphine, merci de nous avoir contacté. Vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour Radio Capi, merci de m'avoir passé la parole. D'emblée, moi je vais donner l'exemple de moi-même. Vous savez, le Congo, le gouvernement congolais, il est faible. Et c'est à partir de sa faiblesse qu'on profite de tout. Là où je vis, je peux dire que dans la ville où je vis, on fait la publicité pour aller adopter les enfants. Je suis allé pour aller, je me suis tapé le luxe, si j'étais appelé le luxe, bien une histoire. Je suis allé pour adopter, mon mari et moi. On arrive là-bas, on nous a donné d'abord 200 pages, 200 pages de loi pour adopter ces enfants-là. Et puis, quand on adopte les enfants, l'État va nous payer, nous. Pendant, je crois, les trois premières années, on paye la famille qui adopte. Parce que ces enfants-là, il manque seulement les toits paternels, les toits là où il y aura un couple qui va les gérer. Mais il ne manque pas de nourriture, il manque pas les minéraux, ils ont tout, c'est seulement un toit. Je ne sais pas si vous comprenez.
Oui.
Mais un autre auditeur a parlé de vendre les enfants. Effectivement, au Congo, on vend les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, là, n'ont pas un... Premièrement, ils n'ont pas un toit paternel. Deuxièmement, ils ne vont pas à l'école. Donc, ils sont rien. Pourquoi ne pas les vendre? Un parent qui se retrouve, il ne peut pas inscrire son enfant. Il ne peut rien donner à son enfant. Il n'a qu'à vendre son enfant. Là, on parle des enfants. Qu'est-ce que l'État fait pour nous? Par exemple, nous qui étions partis des États, de le Congo jusqu'ici. Moi, par moment, on fait des histoires, on ne savait même pas, on connaissait ça. On fait partie des meilleurs gens. Par exemple, par rapport loterie.
Le développement.
Ce sont des intelligences. On voit des Congolais qui viennent ici et ce sont des intelligences qui partent, des médecins, des ingénieurs. Ils arrivent ici, ils excellent. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent un cadre déjà bien planté et puis ils améliorent. On parle l'État doit seulement prendre en charge les parents de ces enfants-là. Qu'on prenne en charge les parents. C'est une honte. Dans ma famille, j'avais un militaire, mon grand-père était militaire, il est mort, sa femme est morte, ils ont laissé 6 enfants. Les enfants vont pour prendre les salaires, le commandant là démontre des listes, son nom est effacé sur la liste des salaires. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi l'État fait ça? On parle, il y a le monsieur qui parle de cadre juridique. Ce sont des papiers, il faut des papiers et des papiers. Si vous allez à la commune, vous allez à la commune, seulement vous demandez vos papiers. les attestations de naissance. On prend seulement un papier, on vous demande la date de votre naissance. On est un papier, il n'y a pas de référence. Et le cadre juridique, là, quand on va prendre le papier avec lequel on va adopter les enfants, deux ans après, aller à ce cadre juridique-là, à demander ces papiers-là, vous ne les verrez même plus. L'État doit améliorer les conditions de vie de sa population.
Merci. Merci beaucoup, madame. C'est important, quand on compare quand même cet exemple que vous avez donné aux États-Unis à Boston, on peut bien l'adopter, mais le principe, c'est qu'il faut donner à un enfant les toits, l'enfant a tout. Il n'a pas de toit, mais il va à l'école, il a l'effet scolaire, il a une assurance. Mais la grande difficulté que nous avons et ce qui conduit à ces trafics, c'est ce principe de précarité, comme on le disait tout à l'heure. Et là où on se retrouve qu'on n'a ni toit, ni famille, ni école, ni quoi. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est tenté à pouvoir envoyer l'enfant. Et mais d'ailleurs, vous l'avez dit, si déjà au niveau des adultes, on voit l'engouement avec lequel les gens sont derrière les ordinateurs au mois d'octobre pour jouer la dernière loterie, alors qu'ils vont devenir nos enfants. Merci beaucoup, madame. Maître Fali, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Maître Fali, bonjour. Voilà, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les uns et les autres votre intervention à ce niveau de débat.
Oui, parce que
Monsieur Fali, on a des soucis avec votre ligne. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, on va revenir à vous le temps d'aller à Walikale pour écouter Aristote qui nous a appelé. Aristote, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à
Radio Kati. Non, on vous écoute, Aristote.
Merci. J'ai quelque chose à parler par rapport au sujet du jour.
Mm-hmm.
Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas toujours, parce que je suis en train d'écouter l'invité qui donne toujours, qui attribue la faute au gouvernement. Chaque jour, le gouvernement qui est en faute. Mais moi, je veux dire que, bien sûr, que le gouvernement doit prendre en charge sa population, mais aussi la population doit s'éduquer. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec des ONG qui font la sensibilisation par rapport au planning familial.
Mm-hmm.
Et les gens m'écoutent. Vous allez voir quelqu'un qui tape beaucoup de femmes, qui veut les dire, nos amis musulmans, qui vont se taper beaucoup de femmes. Par exemple, quelqu'un qui a une femme et qui fait plusieurs enfants. Vous allez voir quelqu'un qui a plus de 35 enfants, 30 enfants. Nous avons beaucoup de temps ici chez nous à Walikale.
Mm-hmm.
Et le papa va abandonner les enfants dans la rue. Et il va arriver même au point que le papa ne connaît même pas les figures de certains de ses enfants. Mais ça aussi, c'est la faute au gouvernement, soit la faute à cette personne. Ce que moi je vais recommander, c'est que les gens puissent s'éduquer. Le fait de faire beaucoup d'enfants, ça amène au gouvernement aussi de ne pas prendre en charge des enfants. Parce que une fois, quelqu'un pourrait avoir deux ou trois enfants, au plus même cinq enfants. Je pense que cette personne serait capable de prendre en charge ses enfants. Mais le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ça va perturber même la façon de vivre.
Mmh.
Et vous allez voir que cette personne, maintenant, sera dans l'impossibilité de prendre en charge ses enfants. Maintenant, l'enfant va abandonner la maison de ses parents pour aller s'héberger dans les orphelinats. Bien sûr que ici chez nous, à Walikale, il n'y a pas encore le système d'orphelinat. Mais dans nos gestions, j'étais à Boutembo l'année antérieure, j'avais un parent, donc un enfant qui va quitter la maison de ses parents. Et donc, un enfant qui va quitter la maison de ses parents pour aller pour aller rester dans la rue, ou soit aller dans les orphelinats juste pour rester et voir comment
il peut survivre. Et cette dimension que vous avez ajoutée, Aristote, elle est importante, c'est l'éducation de la population, la responsabilité des parents aujourd'hui, pour qu'on soit quand même en mesure de se dire, voilà, j'ai assez de moyens, j'ai les moyens qui me permettent de pouvoir avoir autant d'enfants. Et pour éviter ces cas, on connaît dans beaucoup de nos provinces, avec chacun libre, hein, de dire, voilà, ce que je veux. Vous avez deux, trois femmes, comme vous avez donné l'exemple, avec 35 enfants, jusqu'au niveau, mais on ne sait même pas reconnaître encore les autres sur la route, ça devient un problème très sérieux. Et dans ces conditions, ça devient difficile de pouvoir les encadrer. Et quand ces enfants ne peuvent pas avoir le minimum au sein de la famille, ils vont ailleurs, ils vont se retrouver dans la rue. Merci, Aristote. On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission. Hermine, vous êtes à l'Issala, bonjour. Hermine, vous êtes avec nous de l'Issala, bonjour. On a perdu Hermine sur sa ligne, on retourne à Kinshasa. Maître Fali, je pense que la ligne s'est améliorée. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa, Maître Fali, bonjour. Oui, on avait des petits soucis de ligne avec vous. Apparemment, le téléphone pose problème. On pourra voir avec la réalisation si c'est possible de vous avoir. Mais nous avons quand même quelques messages encore. Les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Chico Bassa Kananga estime, lui, que les conditions soulevées par le gouvernement peuvent être valables. Et si la chose la plus importante que le gouvernement doit savoir pour qu'il n'y ait pas l'inégalité dans l'adoption ou soit que les trafics, c'est il faut que les conditions minimum pour la vie d'une personne soit réunie pour éviter que les gens vivent sous le seuil de la pauvreté et dans la précarité. C'est ce qui rend la situation encore très difficile. Nous restons dans la même ville avec Jean-Pierre Tinaï qui pense que pour lui, que tout appartient au gouvernement de mettre en place un cadre qui permette à ce que les enfants puissent s'épanouir, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les centres d'encadrement. Et comme ça, on pourra réduire les cas de l'adoption internationale parce que cela paraît apparaît aujourd'hui comme la seule solution pour les familles qui ne peuvent plus faire face à la pauvreté, à la précarité. On revient, je crois, Hermine qui est avec nous. Cette fois-ci, je crois que ça s'est amélioré. Hermine, vous êtes avec nous.
Oui.
Donc, on vous écoute.
Une question avec vous, monsieur l'animateur de l'émission, parole à l'auditeur. Bonjour à vous.
Bonjour à vous aussi.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
En fait, moi, je voulais intervenir pour parler de la responsabilité de l'État. Et cette responsabilité, c'est par rapport au ministère et en charge d'intérieur ainsi que le social. Moi, je pense qu'à leur niveau, ils doivent réguler toutes ces orphelinats qui publient. Dans les temps, il n'y avait pas des orphelinats partout. Mais aujourd'hui, c'est devenu une affaire de privé qu'on n'était même pas contrôlé. Parce que justement, l'État veut même aujourd'hui adopter une loi. J'ignore quelle était la motivation de cette loi. Si la motivation, c'est permettre à ceux-là de continuer avec leurs activités, ou nous ignorons même ce qu'on fait de ces enfants-là qu'on est en train d'amener à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, à part l'harcèlement sexuel, nous savons aussi qu'il existe le trafic des organes. Et l'État ne sait même pas suivre si réellement ces enfants-là sont placés réellement dans des familles. Alors moi, je pense qu'il revient à l'État de réguler la formation, la création de tous ces actes-là, voir si réellement ils doivent ils répondent aux critères des ASBL ou bien des ONG. Mais aussi, je veux aussi parler du fait que si aujourd'hui on veut initier un projet de loi, c'est bien, nous avons toute une banque de données ici au Congo de loi, mais quelle sera la portée de cette loi, de ce projet de loi-là? Et si jamais ces lois ne sont pas vulgarisées, même les enfants sont ignorants de ces lois-là, ou bien les parents, je ne vois pas la portée de ces lois-là. Moi, je pense que nous avons un problème au Congo, un problème au niveau de formation et d'information.
Oui.
C'est le plus grand problème au Congo. Et si l'État peut réguler ces problèmes, je pense que nous allons solutionner ces problèmes.
Merci.
Et en même temps, je voudrais profiter de l'occasion pour savoir quel est le sort du responsable de cette ONG Tumaini. qui a fait partie par hasard ses trois enfants en Europe, par erreur. Quel est le sort? L'État a fait des responsables de cette ONG-là. Parce que nous ne pouvons pas continuer à initier des lois, mais à laisser aussi la bêtise continuer dans ce sens-là.
Parce que
les enfants qui sont partis ont le droit, ils ont droit d'être protégés. Et la personne qui a causé préjudice doit réparer. Il doit subir la rigueur de la loi.
Mais pourvu qu'elle soit. Merci beaucoup, Hermine. Pourvu aussi que la personne soit poursuivie. Hein. Notre invité nous a dit qu'il est dossier entre les mains.
Tout à fait.
Du procureur général. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le problème, la problématique de la vulgarisation des textes juridiques, on a évoqué cela hier. Hein. La loi, même pour protection de l'enfant. Combien de personnes connaissent la loi? Combien de parents connaissent cette loi et les enfants eux-mêmes? Merci beaucoup aux uns et aux autres. Vous avez été nombreux. Nous revenons à vous, Péry Dalla. Vous avez suivi nos auditeurs, les débats, il est assez intéressant. En bref, pour conclure cet échange.
Notre vœu est que cette loi puisse aider la République, les autorités, ainsi que tous les activistes de la société civile qui s'occupent des questions de l'enfant à éradiquer le phénomène des trafics des enfants, une fois pour toutes, et que nous savons que le combat n'est pas facile. Nous devons lutter contre tous ces réseaux qui s'organisent afin de sortir des enfants illicitement et les vendre et tirer profit de cela, mettre fin à ces commerces honteux de 21e siècle. Et comme le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités dans ce sens-là, que la loi puisse l'amener davantage à s'occuper à l'amélioration des conditions de vie de famille des enfants ou de l'enfant
congolais. Mais si vous le permettez, parce que vous êtes chargé de plaidoyer au Rodessi, qui est-ce là en contact un numéro de téléphone par lequel des familles peuvent vous entrer en contact avec vous en cas de besoin, s'il y a un cas comme ça, si c'est possible?
Oui,
un peu rapidement.
Oui. Les gens peuvent nous atteindre au 09 93 56 35 35.
Et 09 93 56 35 35. Merci, Péry Dalla, chargé des plaidoyers au Rodessi. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés toute cette semaine par le comité avec Jean-Luc Mokondo à la mise en onde du Lupez Abongonda au standard et Gilles Lungembo était à la réalisation et la coordination aussi à la présentation. Piero et la Meiji et à la réalisation et la présentation. Nous vous disons merci pour nous avoir accompagnés toute la semaine. Parole aux auditeurs sont aussi sur www.radiocapi.net. On se retrouve le lundi pour un autre numéro, mais là on vous souhaite un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir. Thank you.